à toutes et à tous sur Radio Cause Commune, disponible en Île-de-France sur la 93.1 FM et sur le DAB+, et partout ailleurs sur cause-commune.fm. Vous êtes de nouveau avec nous dans la Bad Feminist Fabric, le podcast où on tente de déconstruire nos a priori dans la pop culture. L'émission est présentée par nous, deux meufs, et vous nous retrouverez de manière hebdomadaire tout le long du mois de mars, autour de la journée emblématique qu'est le 8 mars. Même si on continue d'espérer que cette journée n'existe bientôt plus, parce que ça voudra dire qu'on n'a plus besoin de souligner nos luttes et qu'on a enfin obtenu les droits qui nous sont dus. On abordera ensemble des éléments clés pour entrevoir avec un nouveau regard l'héritage de la culture populaire et celle d'aujourd'hui. Voilà, et en gros, on va soulever plein de choses en gardant à l'esprit un point de vue inclusif et la notion de genre. Cette musique que vous connaissez et que vous venez d'entendre passe quand on utilise des termes qui peuvent nécessiter un éclaircissement. Parce que non, on n'est pas tous égaux face aux notions et termes rapportant au genre et au féminisme. Du coup, on s'est dit qu'une petite explication, pour qu'on avance toutes et tous ensemble avec les mêmes bases, ce serait mieux.
Du coup, tu disais qu'on parlera de différents sujets en gardant en tête inclusivité et genre. Bon, en gros, le genre, c'est les constructions sociales et culturelles qui enferment les individus dans des rôles masculins et féminins. Ça a aussi une incidence sur le rapport entre eux. Jusque-là, vous me suivez. C'est hyper important à considérer dans notre approche de la fabrique genrée des individus. Une société genrée, ça induit chez les enfants des comportements, des goûts, des croyances, des peurs, un rapport à eux-mêmes, aux autres, pas en tant qu'être humain, mais en se basant sur ce que la société attend d'eux. En fait, on leur laisse pas l'opportunité totale d'être eux-mêmes. Vous connaissez sûrement la célèbre citation « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir du deuxième sexe de 1949. Cette phrase, elle signifie qu'être une femme ou un homme, un garçon, une fille, n'est pas fondée par nature, c'est une construction sociale. Le sexe, il est inhérent, alors que le genre d'une personne peut être fluide. Un garçon, biologiquement parlant, n'est pas forcément et n'a pas forcément un être masculin dans son identité, et inversement. Et ça peut évoluer tout au long de la vie.
Allez, on part sur notre troisième épisode du BFF Podcast.
Et dans ce troisième épisode du podcast, qui est divisé en deux parties, on va parler Gender Fabric. Et dans cette première partie, on va s'attaquer au mythe qui entoure la beauté dans les dessins animés, culte dans les studios Disney. On va dresser un petit panel de films considérés par l'opinion publique comme des classiques de l'enfance et on va y déceler la fabrique de bons et mauvais modèles pour la construction des enfants. Et comme c'est ce qui nous questionne, on va essayer de découvrir ou redécouvrir et nuancer ensemble l'influence, l'origine et le rôle des héros et héroïnes d'hier et d'aujourd'hui dans la pop culture.
La pop culture est en grande majorité dominée par les médias. Dès l'enfance, télévision, publicité, magazine et ordinateur nous abreuvent d'images qui font partie de notre construction individuelle mais aussi collective. Bah oui, ça devient un dénominateur commun si ces images sont issues de la culture de masse. Les médias nous influencent tout au long de notre vie, de manière plus ou moins directe, c'est normal. Et la période clé de développement qu'est l'enfance est particulièrement propice à absorber les images dont on l'abreuve. Les génériques de dessins animés sont une bonne résultante de ça. Preuve en est, ils sont a priori toujours imprimés pour certains dans votre mémoire. Parce que oui, les films d'animation sont dans notre construction, en particulier ceux du monstre d'animation Disney. Même si depuis plusieurs années, d'autres studios comme Pixar tiennent eux aussi une place primordiale dans l'imaginaire en développement des enfants, Disney reste la référence incontestable. C'est pourquoi, alors que bien entendu des dessins animés incroyables existent en parallèle, voire qui nous plaisent plus, hein, on a fait le choix d'aborder exclusivement des créations Disney, parce qu'elles sont l'essence de la culture populaire. On a aussi décidé de sortir de notre habitude, et oui, épisode spécial, et de vous parler aussi de films pas si récents que ça. On voulait que ça vous touche autant dans les souvenirs névrotiques en entendant Ce rêve bleu, que dans vos angoisses actuelles en entendant Libéré, délivré. Non, sans blague, on voulait que ça vous fasse tilter, vous en tant qu'individu, plus si jeune que ça, et aussi en tant que parent si vous l'êtes. Aucune injonction d'ailleurs, évidemment, chacun et chacune fait ce qu'il veut. Et on a encore resserré notre sujet en décidant de ne pas nous attarder sur les créations mettant en scène des animaux en tant que personnages principaux et principales. Alors oui, pas de Roi Lion ni de La Belle et le Clochard, mais peut-être dans un prochain épisode un jour. En attendant, on n'a pas le temps pour les personnifications, on va à l'essentiel, on veut des représentations de figures humaines dans cet épisode en deux parties. Et on vous présentera héros et héroïnes parce que comme vous le savez, notre cheval de bataille c'est le genre, encore et toujours. Et c'est à travers ce prisme qu'on va écouter et regarder ensemble la mise en scène d'un type de beauté et de ses injonctions.
Vous savez, on a hésité. Il y a un certain nombre de films dont on va vous parler qui sont maintenant taxés de sexistes et racistes. Et on en passe, et à juste titre. Mais on a fait le choix de parler d'esthétique ici. Et ça concerne aussi les premiers films du studio. Ça n'enlève rien au fait que la cancel culture est aussi une réponse naturelle à certains contenus. La cancel culture, c'est une expression qui vient des États-Unis et qui se répand depuis une dizaine d'années dans le monde. On peut le traduire par culture de l'annulation et de la dénonciation. Si un comportement, une œuvre est problématique d'un point de vue moral et éthique, on l'accuse puis on le boycotte. C'est un concept en France qui scinde les avis entre celles et ceux qui en ont ras-le-bol du consentement de la société face aux abus. Quelques exemples avec Roman Polanski et les Césars, ou la tribune de la liberté d'importuner de Catherine Deneuve face au mouvement MeToo, ou encore Darmanin, ministre de l'Intérieur. En France, on est contre le politiquement correct, mais très domination patriarcale correcte par contre. C'est assez particulier. Mais bon, il y a aussi celles et ceux qui veulent un rééquilibrage, et là on parle plutôt des créations. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer, mais pas faire disparaître les preuves de ces abus, parce que c'est un témoin de l'histoire. Ils veulent plutôt prévenir qu'il y a des contenus comme ça, pour permettre un dialogue, une démarche pédagogique. Par exemple, au lieu de dire « ne regardez pas Cendrillon », on vous dira « regardez-le, mais faites ressortir ce qui est problématique ». Ce qui est possible aussi, c'est de penser à regarder plutôt des œuvres inclusives, comme si vous voulez une histoire de princesse, rebelle ou princesse Mononoké. Voilà, donc critiquable ou non, la cancel culture fait avancer les choses, même dans le plus grand studio d'animation du monde, auquel on va s'intéresser tout de suite.
Et oui, le studio Disney est une référence garantie en termes de dessin animé. Bien inscrit internationalement dans nos ménages, l'industrie d'animation est aussi connue pour les multiples stéréotypes qu'elle véhicule, notamment chez les filles et les garçons. Comment la féminité et la masculinité sont-elles représentées? Et que disent vraiment les dessins animés Disney sur les hommes et les femmes? Quand on parle dessin animé, on peut remarquer que les enfants s'identifient aux héros et aux héroïnes qui y figurent. Dans l'imaginaire collectif, quand il y a un personnage féminin, ça veut dire que c'est un film qui s'adresse aux filles. L'imaginaire collectif, c'est les stéréotypes, les a priori qui sont intégrés dans notre société et qui nous ont été transmis par l'éducation, la culture, l'histoire et auxquels une majorité d'entre nous croit malgré lui presque. Nous ici, on parle d'imagerie collective inconsciente. C'est la même chose, mais on a intégré via les images avec lesquelles on s'est construit et construite. Par exemple, à force de voir uniquement des princesses blanches dans les dessins animés et qu'on soit blanc ou non et en Occident ou non, malgré nous, et alors qu'en grandissant on sait pertinemment qu'il y a des princesses non blanches, si là je vous dis princesse, dans votre tête tout de suite vous vous figurez une princesse blanche. C'est pour ça que la représentation c'est important.
Et oui, on a tous le scénario en tête. Une princesse attendant d'être sauvée par un prince charmant. Même si ce genre d'histoire fait rêver des générations, les messages véhiculés dans les films ne sont pas hyper émancipateurs à l'égard des filles. On peut même le remarquer dans un dessin animé récent, Réponse, qui date de 2010.
7h, je me réveille et dehors il fait clair. Fais du balai, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite, je lis un livre et même deux ou trois. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis des guitares, tricots, gâteaux et quelquefois, je me demande où est la vraie vie.
Comme on a pu l'entendre, les princesses subissent leurs conditions de femmes et ne doivent pas prétendre clamer leur liberté ou leur soif d'aventure. Femmes frêles et réduites à leur beauté, elles sont clairement là pour faire de la figuration. Mais surtout, elles sont un bon prétexte pour y dépeindre et célébrer des devoirs tels que l'amour, le mariage et la procréation. Joie, bonheur et prospérité. Un rêve éveillé, vraiment ?
Bon, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. N'oublions pas que la plupart des dessins animés reflètent les idéologies d'une société à un moment donné. Le statut des femmes dans les Disney correspond le plus souvent à celui des femmes des sociétés occidentales et américaines. Et les princesses créées dans les années 40 et 50 étaient à l'image de ce que devait être une femme à cette époque. Une fille douce, gentille, sage, dépendante, contrainte, soumise, qui doit s'occuper des corvées, et tout ça en poussant la chansonnette, mesdames. D'ailleurs, pour l'anecdote, les premières princesses ont été pensées sur le modèle des actrices célèbres de l'époque. Ce qui est étrange, puisque ces modèles de référence parlent aux adultes, alors qu'ils sont destinés aux enfants. C'est quoi le message? On leur montre déjà à quoi ressemble un idéal inatteignable?
En plus de ça, si on va plus loin, on remarque que la diversité des corps et leur réalisme se plient encore régulièrement devant l'unique qualité de ces personnages. Être belle. Évidemment, cette qualité, c'est en fait un carcan. et il est bien encore inscrit aujourd'hui. Si je vous dis canon de beauté, ça vous parle ?
Ouais, ça me parle. Les canons de beauté, c'est les codes de la beauté parfaite. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils changent selon l'époque et l'endroit. Le beau n'est pas le même au Mali qu'au Vietnam, qu'en France et qu'au 7e, 18e et 21e siècle. Et ce beau parfait serait supposément objectif et tout le monde tente de l'atteindre, puisqu'à l'opposé du beau, il y a le reste, le banal. Les canons de beauté qui sont distillés dans les médias, qui concernent surtout les femmes hein, et qui sont pourtant hors normes, donnent une mauvaise image de soi et font perdre confiance, estime, argent, temps, voire la vie aux individus quand leur rapport à eux-mêmes devient insupportable au regard de ce qu'attend la société.
Bah oui, le problème c'est que l'imagerie de ces princesses véhicule un idéal de la minceur dès le plus jeune âge. Et pas que, elles sont sexualisées sans jamais être trop sexy, c'est-à-dire pas séductrices, pas conscientes de leur beauté, donc pas dangereuses, elles sont souvent candides. Elles sont naturellement maquillées, oxymore intéressant, même la récente et populaire Reine des Neiges correspond à cet archétype. Sauriez-vous citer une princesse aux courbes généreuses ou qui ne soit simplement pas dans les canons ? Rien d'étonnant à tout cela. Toutes cultivent une ligne idéale et étrangement similaire à travers les différents dessins animés. Bien que dans les derniers Disney, le personnage Vaiana ait des proportions normales pour une enfant comparée à la plupart des princesses précédentes à la silhouette amincie et allongée, telle des Barbie, cette démarche se retrouve aussi dans Lilo et Stitch ou encore dans des films de Miyazaki comme Ponyo sur la falaise qui incarne une petite fille poisson au ventre rond qui a des proportions d'une enfant lambda, comme on l'entend dans le générique. Même si vous ne comprenez pas le japonais, on vous assure que c'est ce qu'ils disent. Ça fait pas beaucoup de représentations pour les enfants quand même. Et ça pose problème parce que, comme on le sait, les enfants prennent comme modèle leurs héros et héroïnes préférés. L'idée d'un modèle d'identification, c'est d'abord de se dire qu'en regardant des personnages, on va s'identifier. Et ça va nous donner un modèle de comportement, de caractère. C'est fort chez les enfants parce qu'ils vont faire du mimétisme. Vous visualisez le petit qui mime Spider-Man en lançant des fausses toiles d'araignée ou la petite qui voit un culte à sa robe de princesse. Malheureusement, ça va plus loin. Le garçon voudra être courageux et gentil comme Spider-Man et la fille belle comme une princesse. Ça devient donc un modèle. C'est un processus d'apprentissage. Les enfants assimilent des comportements et ça fait évoluer leur personnalité. Souvent de manière très genrée. Beauté et douceur face au courage et à la force.
Ok, si on passe aux garçons. Quand on pense à la représentation masculine dans les dessins animés, on remarque que Disney dicte l'image de ce qu'un homme doit être. Un homme, ça doit être grand, fort, courageux, puissant, prêt à combattre tous les dangers. Parce qu'il faut bien que le héros se comporte comme tel. La princesse en détresse ne sert qu'à mettre davantage en valeur sa virilité. Sa personnalité est d'ailleurs limitée à son statut, il est prince et c'est tout. Que ce soit dans Cendrillon, La Belle au Bois Dormant ou Blanche-Neige, on ne sait rien de plus sur lui. Il sauve la princesse, dont il est tombé éperdument amoureux en un regard. Après, une fois de plus, c'est old school comme vision. Ça s'est développé depuis. Maintenant, il leur faut, deux jours quand même.
Hercule illustre bien les injonctions à la masculinité énoncées en amont. Bon, certes. Il y a le paramètre mythologique, c'est quand même le fils de Zeus. Le fils de Zeus ne devrait pas ressembler à une crevette, mais plutôt à un bel Apollon. C'est d'ailleurs ce que la célèbre chanson du dessin animé, dont on vous passe un extrait maintenant, dit.
Ça, c'est un héros. À partir de ce jour, notre bel Hercule devint l'idole des foules. Il était plein de flammes, de charme et si cool. Ah
dans le vent. Allez, grâce en grâce, on chante qu'il est le plus grand.
C'est un pro.
La
elle évolue tout au long de l'histoire. On le voit passer de l'adolescence à l'âge adulte, mais surtout, on le voit devenir homme. Il doit prouver à son père qu'il est digne de son nom et de sa puissance. Comme en plus, c'est un demi-dieu, c'est un énorme challenge pour lui. Parce que comme il a vécu toute sa vie en humain, il a beaucoup plus de choses à prouver. Alors clairement, il se met à la gonflette, puis lors d'une escapade, il rencontre Megara, dont il tombe bien entendu amoureux, et il devra lui sauver la vie en tuant de multiples titans. Il n'y a pas mieux pour montrer à papa qu'il est le plus fort.
En fait, ces injonctions portent un nom plus spécifique, c'est le mythe de la virilité. Le mythe de la virilité, c'est ce qu'on demande à des hommes d'incarner pour être de vrais hommes, entre guillemets. C'est pas justifiable par nature, on ne peut pas dire « je suis courageux parce que j'ai un pénis », c'est aberrant. Le mythe de la virilité, ça enferme les hommes dans des injonctions qui ont été construites au fil du temps. Ça légitimise leur violence, leur supposée supériorité, et ça leur empêche de montrer leurs sentiments. Et du coup, encore une fois, ça encourage les inégalités entre hommes et femmes. Après, faut quand même noter que l'image du prince évolue un peu avec Hercule, mais comme avec les princesses, ça prend un peu de temps avant que les personnages se diversifient. Bon, au-delà de cet exemple, faut dire que les garçons sont quand même beaucoup plus libres. Il y a toujours une quête, une aventure, des combats, donc c'est beaucoup plus emprunt à la curiosité, au monde extérieur, à l'inverse des princesses qui, elles, sont souvent enfermées, empêchées. On leur interdit l'accès à ce monde extérieur. Un exemple digne de l'aventure, c'est la planète au trésor. Un jeune adolescent fait la rencontre d'un homme qui lui donne avant de mourir la carte au trésor du plus célèbre pirate de tous les temps. Par le biais d'autres personnages, une expédition est montée pour retrouver ce trésor. On peut pas faire mieux en termes d'aventure et prise en main de son destin. Cette chanson l'illustre bien.
Si tu ne veux plus rester dans l'ombre avant qu'un beau jour ne fonde tous tes espoirs, que tu ne te sentes un peu partout étranger. Viens, il existe un nouveau monde où la lune est toujours blonde et les étoiles restent allumées. Ne crois pas tout ce qu'on raconte, ce qu'on peut lire dans les contes. Si tu veux voir la liberté, prends entre tes mains ton destin.
Il va pas devoir se muscler, mais par contre, il va constater à bien des égards que les apparences sont trompeuses, en faisant confiance à un mentor crapuleux auquel, évidemment, on va finir par s'attacher, comme la bête dans La Belle et la Bête, parce que, au fond, ils sont bons. Ce sont des hommes torturés. Vous avez remarqué, on s'attache jamais aux méchantes, par contre. Et si on parlait des méchantes figures, justement ? Ce qui est important de constater, c'est que les méchants et méchantes, eux, ne sont pas concernés par les carcans de beauté. On pourrait même dire que les méchants et méchantes de Disney sont plutôt moches. Je me demande, et je te retourne la question meuf, pourquoi les méchants et méchantes sont moches ? Pourquoi les héros ne peuvent-ils pas être moches ? Pourquoi la beauté leur est associée ? Les méchants et méchantes ont souvent un physique repoussant, atypique. Maléfique, dans La Belle au bois dormant, a un corps anguleux, très mince, voire squelettique, et porte une cape, comme Jafar dans Aladdin, qui par ailleurs est assez efféminé, comme c'est souvent le cas chez d'autres méchants. Tandis qu'Ursula, dans La Petite Sirène, maquillée à outrance, contrairement aux princesses ou encore Monsieur Mouche dans Peter Pan, sont plutôt opulents et au visage grossier. On attribue souvent aux personnages gros, d'ailleurs, le rôle de comique, ou de méchant, ou les deux. Ils ne semblent pas posséder les proportions parfaites des héros, ni leur puissance ou leur agilité. Les méchants sont renvoyés au statut du ridicule, on rigole et on se moque d'eux quand ils échouent.
Entre culte de la maigreur et grossophobie, la Walt Disney Company se donne à fond et multiplie les cartons rouges à la diversité. Bon, un petit point sur la grossophobie. C'est les comportements et les attitudes hostiles qui discriminent les personnes grosses. Et oui, on dit gros, parce que non, gros, c'est pas un gros mot. Il faut désacraliser ce mot insulte. Si mince n'est pas insultant, gros non plus. Dans notre société de culte de la minceur, la grossophobie est l'outil qui nourrit les préjugés négatifs qu'on leur associe, et ça justifie de leur infliger agression et humiliation. Le fait qu'on ne représente pas et qu'on ne prenne pas en compte les gros dans la société et dans les médias, à part pour les juger, ça leur enlève leur légitimité de simplement être. Ça les fait se sentir rejetés, se sentir de trop, trop gros.
Appliquer une diversité des corps uniquement aux méchants, ça fait passer un message presque plus nocif que l'absence de non-représentation. Évidemment, c'est problématique puisque les enfants sont hyper sujets à l'identification. Donc non seulement ils peuvent se sentir exclus s'ils ne voient personne qui leur ressemble, et en plus, ils assimilent qu'être gros, par exemple, c'est mal, et qu'il est permis de se moquer d'eux, puisque, en fait, ils sortent des canons de beauté. Puis devinez quoi ? Les caractéristiques communes à tous ces méchants personnages sont justement leurs corps qui sortent de ce fantasme. Marrant, non ? D'ailleurs, on leur attribue même une palette de couleurs bien spécifiques. Noir, gris, rouge, violet. Et souvent, ils ont les yeux verts. Verts de jalousie. Les méchants et les méchantes se construisent en opposition aux héros et héroïnes, et cela vient bien au-delà des apparences.
Le destin d'une femme, c'est d'être la femme d'un homme. Voilà, donc le cœur de la leçon que Disney assène à nos enfants à longueur de film. Une femme bien est une femme soumise à un homme et dépendante de lui sur tous les plans. Et inversement, une femme qui a au contraire du pouvoir et de l'indépendance par rapport aux hommes est forcément mauvaise, voire diabolique. Les méchantes de Disney dominent les hommes ou ont des hommes à leur service. Ursula et d'autres l'incarnent bien. Les méchantes représentent là aussi une menace pour le pouvoir masculin. Ursula maléfique se venge de leur exclusion de la cour sur les filles de ceux qui détiennent le pouvoir et cherche à tout prix à les remplacer. Elles sont avides de pouvoir et de reconnaissance. Si elles recourent volontiers à des armes traditionnellement féminines, poison, ruse ou séduction par exemple, elles usent aussi de leur force et de leur pouvoir en devenant un dragon dans La Belle au Bois Dormant ou prennent des proportions gigantesques comme Ursula dans La Petite Sirène. D'ailleurs, on vous épargne la leçon sur le fait qu'elles sont souvent assimilées à des sorcières, image ultime de la femme puissante, incontrôlable, indépendante et à éliminer.
Je n'ai pas toujours été gentille et sincère. J'ai vraiment mérité le nom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Repenti, j'ai voulu faire marche arrière. Oui, oui. Il est vrai que je connais un peu de magie. C'est un talent que j'ai toujours possédé. Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les camps désespérés. Pathétique. Pauvre moi, perdition. Oh mal de tout. Cette âme-là rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette, et moi qu'est-ce que je dis ? Je dis oui.
Bref, ces méchantes s'opposent donc aux héroïnes classiques de Disney qui sont dans l'immense majorité des cas soumises aux hommes, ou du moins dépendantes d'eux sur le plan physique. Elles sont toujours plus petites, et sur le plan affectif, elles dévouent leur vie à quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes. Mais bon, heureusement, Disney est là pour nous expliquer ce qui ne tourne pas rond chez les méchantes. C'est simple. Elles ont juste un problème avec leur féminité. Contrairement aux héroïnes, qui sont toujours jeunes et belles, les méchantes sont systématiquement vieilles et moches. En effet, chez Disney, il ne fait pas bon ménage pour une femme de dépasser sa date limite de péremption. À partir d'un certain âge, on est forcément repoussante. Les hommes peuvent être vieux et désirables, comme le roi Triton dans La Petite Sirène, les femmes, non. Du coup, dans la plus grande tradition sexiste, Disney nous sert à la louche des stéréotypes avec au centre la femme idéale, belle, mais qui ne s'en doute pas, discrète, courageuse, mais sans déranger, alors qu'aux extrêmes, on place les méchantes. Les femmes idéalisées dans la vie et dans les dessins animés sont toujours susceptibles d'être critiquées ou méprisées, et la domination masculine peut donc tranquillement continuer de se perpétuer. Mais revenons-en aux deux catégories de femmes qui sont absolument à éviter. Premièrement, les femmes dures, avec la belle-mère de Cendrillon par exemple, la marâtre dans Blanche-Neige, et maléfique dans La Belle au Bois Dormant, qui représente en tout point une froideur glaçante. Deuxièmement, les exubérantes, pour ne pas dire, entre guillemets, les hystériques. Elles parlent beaucoup et fort, s'habillent avec mauvais goût, se trémoussent de manière vulgaire, se maquillent à outrance. En bref, elles en font toujours trop et ne savent pas vraiment se tenir. On reconnaît là Ursula dans La Petite Sirène, Cruella dans Les 101 Dalmatiens ou encore Isma dans Cusco.
En plus de ça, ces méchantes se retrouvent toutes dans le stéréotype sexiste de la vieille fille. Femme pitoyable parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme qui aurait pu donner un sens à sa vie et qui tente de combler cette absence avec des animaux de compagnie. C'est la marâtre de Cendrillon avec son chat Lucifer, Maléfique et son corbeau, ou encore Ursula et ses Myrènes. C'est triste, non ? Alors que les méchants, certes moches eux aussi, sont seulement avides de pouvoir, parce que, vous voyez, ce sont des hommes. Vous saisissez la différence due à leur genre ? Ouais, nous non plus.
Bon, heureusement quand même, les méchants et les méchantes ont quelque peu changé au niveau de leur apparence dans certains films, comme la mère Gothel dans Réponse, qui rentre dans les normes, le prince Hans dans La Reine des Neiges, qui fait partie aussi des standards de beauté et n'incarne pas un personnage comique, gros ou laid. Le rôle du méchant apparaît alors moins caricaturé et plus réaliste. Le côté comique du méchant disparaît. Chan Yu, dans Mulan par exemple, Mère Gothel dans Réponse, ou Hans dans La Reine des Neiges, l'illustre assez bien. D'un point de vue général, les personnages gagnent en profondeur.
On a vu avec les premières princesses et héroïnes Disney comme Blanche-Neige, Cendrillon, qu'elles représentent l'archétype de la femme au foyer, elles font le ménage, la cuisine et s'occupent des autres. Miroir de la société industrielle des années 30, cette image ne choque pourtant personne à cette époque. Blanche-Neige dans le rôle de la maman, Cendrillon aux tâches ménagères. Cependant, même avec quelques évolutions, les stéréotypes moraux restent bien ancrés. Les princesses finissent par se marier, avoir des enfants et rentrent dans le modèle conforme de la société. Et la rivalité, l'injonction à la vieillesse chez les méchantes, reste encore et toujours bien là, bien présente. Même si les hommes subissent également certaines injonctions, elles sont tout de même moindres comparées à celles des femmes. Les hommes sont injustement poussés à en faire toujours plus, plus courageux, plus forts, plus virils, alors que les femmes sont poussées vers le moins, moins intrépides, moins curieuses, moins puissantes. L'égalité homme-femme n'est donc toujours pas atteinte.
Malgré ses défauts, le studio Disney reste un outil éducatif, mais il est important de prendre en compte que le public d'enfants reste fortement influencé par cette fausse réalité. Du coup, en imposant des modèles uniques et réalistes, qu'il s'agisse du corps, des rôles, de l'attitude, du récit, il ne faudrait pas que l'entreprise oublie que le public auquel il s'adresse s'inscrit dans la diversité. Et si le public ne s'identifie pas, il se sent exclu. Et bonjour les complexes. Il est important que les médias comme Disney rompent les conceptions dégradantes et démodées que dicte la société patriarcale. Il faut montrer des individus multiples dans des rôles, des corps, des attitudes, des récits et des ethnies différentes. Surtout que l'on sait qu'il existe des représentations bienveillantes dans les studios. Ghibli, par exemple, qui rencontre un succès indescriptible à chaque film produit. Nul doute que ces valeurs participent, même à petite dose, aux évolutions des consciences et comportements. Alors, puisque c'est possible, quand est-ce qu'on s'y met ?
Et bien, ce troisième épisode, intitulé Gender Fabric, premier volet de notre mini-saga sur la construction de genre dans les dessins animés Disney, est fini. Merci encore à Cause Commune de nous diffuser pour ces quelques podcasts de la Bad Feminism Fabric. On est toujours ravis de passer ces moments avec vous et on revient à nouveau la semaine prochaine, toujours sur la radio Cause Commune 93.1 FM avec la suite de la Gender Fabric. On parlera des messages sous-jacents, à nouveau dans les dessins animés du plus grand studio d'animation au monde. Pouvoir, sacrifice, famille et autres tribulations. En attendant, si vraiment vous y tenez, vous pouvez nous réécouter sur internet sur le site cause-commune.fm. Et surtout, n'hésitez pas si ça vous intéresse, on vous a mis sur la page du podcast des références qui feront écho à l'émission et iront plus loin. Il y a des bouquins pour adultes et pour enfants. Mais si vous n'avez pas l'envie, pas le temps, pas l'argent, il y a aussi des liens de conférences et de super podcasts. Sur ce, continuez à kiffer ou kiffez à nouveau regarder Cendrillon si c'est votre Madeleine de Proust, maintenant qu'on sait que c'est pas si mauvais du moment qu'on a conscience de ce qu'on regarde. On vous souhaite une belle journée et à bientôt. There's no place I'd rather be. Down the surf or out at sea. Lingering in the ocean blue. And if I had one wish come true, I'd surf till the sun sets beyond the la 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 la